Quand Dieu dirige les choses, c'est lui qui les conduit, c'est lui qui nous conduit sur le chemin. Et quand on prend un temps, comme le temps de la semaine dernière, de jeûne, de prière, ben des fois, une fois qu'on sort de là, on sort revigoré, on sort fortifié, on sort encouragé. C'est bien. Mais quand je lis dans la Bible, Jésus, il a pris un temps de jeûne et de prière, il a fait ça pendant 40 jours. D'accord? C'était pendant 40 jours. Et on pourrait se dire, quand il est sorti de là, il était fort. C'était super. Maintenant, il y avait des temps de bénédiction qui l'attendaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été tenté. Juste après un temps dans lequel on peut se dire, il sort fort, il sort, c'est bon, il va casser la baraque. Et nous aussi, ça peut être pareil. On sort d'un moment fort, on sort d'un moment extraordinaire. Juste après, il y a la tentation. Et c'est de ça dont je voudrais parler aujourd'hui. Alors, j'ai prévu quelques petites diapos. C'est un peu petit là, mais ça va aller pour qu'on puisse suivre un peu les versets. Parce que la tentation, c'est des fois on pense que quand il y a un moment de tentation qui vient dans notre vie, c'est toujours un moment de combat, c'est toujours un moment. Et des fois on passe des moments qui sont formidables avec Dieu, qui sont géniaux, et puis on se retrouve en train de dégringoler un peu après. Et on se dit, mais c'est pas possible, ma vie elle va en dents de scie. Je monte, et puis après je dégringole. Je monte, et puis après je dégringole. Et on y va comme ça. Et on se dit, mais comment ça se fait? Comment c'est possible? Et on est pris souvent entre. D'abord, la tentation, ça travaille sur l'envie, sur nos désirs, sur quelque chose de bien profond. Et quand on est travaillé par Dieu, c'est pas que les bonnes choses qui remontent à la surface. C'est les pierres. Comme j'ai déjà dit un jour, quand j'étais jeune, je labourais le champ de ma mère, mes parents, enfin, on avait un petit potager, et on était là en train de labourer, et ça m'énervait parce que tous les ans, il fallait faire ça. Mais tous les ans, il y avait des pierres. C'est pas possible. Le travail que j'ai fait l'année dernière, encore une fois, je le retrouve. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a jamais? Alors, il fallait attendre. Au bout d'un moment, la terre devenait meuble. Après plusieurs années, ça se travaille. Mais les pierres étaient toujours là, mais c'est pas possible parce qu'elles remontent à la surface, parce que ça remonte. Et Dieu, lorsqu'il fait un travail dans notre vie, il y a des pierres qui remontent à la surface. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des choses qui sont enfouies et que Dieu a besoin de ramener à la surface pour l'enlever. Et il y en aura encore derrière. Parce qu'il y a un travail de Dieu qui se fait. Mais la tentation, elle travaille sur l'envie, le désir. Et vous savez, c'est cette tension entre le vouloir et le pouvoir. Je veux quelque chose, mais aussi je peux quelque chose. Et c'est très décisionnel, c'est un vecteur vraiment décisionnel qui se fait sur ce qu'on pense pouvoir être capable. Et des fois, on pense être capable de beaucoup de choses, on pense pouvoir être capable de beaucoup de choses, mais on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Alors on vient, on se met devant Dieu, on se place devant Dieu, on passe des temps formidables. Et puis de suite après, on a l'impression, on se dit, mais pourquoi ça passe pas? Pourquoi ça s'en va pas? Et ce que l'on pense être capable dépend de deux choses, de notre capacité à faire confiance à Dieu. Donc notre connaissance de Dieu. Et aussi de ce qui alimente nos pensées. On n'est pas une boîte noire dans laquelle il y a rien qui se passe. On est un petit peu comme ça, on vit dans le monde dans lequel on est. Et si on filtre pas les choses qui sont autour de nous, ben on se laisse assaillir par beaucoup de choses. Ce que l'on voit, ce que l'on entend, etc. Et donc, je voudrais prendre un premier passage, c'est dans Genèse, chapitre 4. L'Éternel dit à Caïn, alors c'est un peu petit, je suis désolé, je me rends compte que maintenant, mais l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Les désirs du péché se portent vers nous, se tournent vers nous. Mais c'est à nous que Dieu nous demande de dominer sur lui. Donc c'est pas, on n'est pas comme décérébré dans lequel on fait quelque chose, puis Dieu dirige toute chose tellement que, bon, ça va, on n'a plus à réfléchir, on n'a plus à rien faire. Dieu n'enlève à aucun moment la responsabilité de l'homme dans ses actes. Dieu n'enlève à aucun moment le fait que vous et moi, lorsque nous faisons des choix, ce sont nos choix. C'est ce qui nous incombe. Et lorsque nous choisissons quelque chose, il y a tout un tas de choses qui peuvent venir pour essayer de nous écarter de la voie. Mais c'est à nous à faire preuve de fermeté, à faire preuve de volonté. Et dans Jacques chapitre 1 et au verset 13, il est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a enfanté, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc c'est un processus. Il y a un processus dans lequel on se trouve et qui fait que progressivement, il y a une pente devant nous et on glisse. Et on se laisse attirer par cette pente. Vous savez, un peu comme ceux qui... Enfin, il y en a qui ont peur du vertige, et quand on a le vertige, en fait, c'est on se sent attiré par le vide. Donc j'avais une amie comme ça, c'était terrible pour elle parce que alors c'était en école biblique, on l'avait mis au dernier niveau, à la fenêtre qui donne sur le balcon, et elle avait le vertige, elle avait peur, et nous, bon, nous dans normalement, on l'appelait Annie, bon, elle s'appelle Annie. Annie, viens! Non, je peux pas! Je peux pas m'approcher de la fenêtre. Parce que c'était haut. Et le fait que quand c'est comme ça, c'est une forme d'attirance, on se sent attiré. Alors qu'on pourrait très bien être là. Là, dessous moi, il y a du vide. Bon, ça va. J'ai pas de problème. Si on enlève une plaque, peut-être, je vais me sentir attiré. Mais quelqu'un qui a le vertige, je vais peut-être se sentir attiré. Pourtant, que j'ai la plaque ou que j'ai pas la plaque, c'est la même chose. Je peux me tenir là. Donc c'est un travail déjà intérieur. C'est une mentalité, c'est une manière de penser dans laquelle on se laisse attirer en fait. On se laisse attirer par ce qui nous cause la perte. Et la manière dont nous abordons les situations et les pensées qui se tiennent aussi derrière nos choix, parce que derrière chacun de nos choix c'est une manière de penser qu'on a, ben toute cette manière-là détermine pour beaucoup le succès et l'échec de ce qu'on fait. Mais dès lors qu'on se repose sur notre propre capacité, alors l'orgueil nous attend. Quand on pense qu'on est capable de quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il faut être défaitiste, hein, mais quand on se repose sur soi-même pour croire qu'on est capable de quelque chose, alors le péché, c'est à ce moment-là que le péché se tient à notre porte. L'orgueil se tient devant nous pour assouvir des fois notre appétit de gloire, de reconnaissance, d'être plus fort que l'un ou d'être meilleur que l'autre, au lieu de simplement faire ce que Dieu nous demande de faire. Et la vie en Dieu, c'est « fais ce que je te demande ». C'est pas, ne te pose pas des questions sur par rapport à toi, par rapport à, comme on l'a déjà dit, le péché en lui-même et le péché d'Adam. La caractéristique d'Adam qui a péché, c'est qu'il se regarde lui-même. Pour voir qu'il était nu, il a fallu qu'il se regarde lui-même, donc qu'il se tourne vers lui. Et la première caractéristique de notre péché dans nos lits, c'est quand on commence trop à se regarder à soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se coiffer le matin, qu'il ne faut pas bien s'habiller ou autre chose. Mais c'est déjà la première caractéristique, c'est que lorsqu'on commence à se tourner trop vers nous, c'est aussi là qu'on est sur une pente qui glisse. C'est aussi là qu'on est sur une pente descendante. Alors, je vais prendre un passage par rapport à Gédéon. Donc, Gédéon qui partait en guerre. Gédéon partant en guerre. Et dans le livre de Juges, au chapitre 7, alors c'est un long passage, il nous est dit, Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. » 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui qui aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui qui n'aille pas vers toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau, avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je délivrerai Madian entre les mains, que tout le reste du peuple s'en aille et rentre chez soi. S'en aille chacun chez soi. Donc c'est un passage que je voulais prendre parce que il parle de ces hommes qui étaient nombreux au départ et à l'arrivée, ils étaient peu nombreux. À l'arrivée, ils étaient que 300. Et parmi ces hommes, il y a plusieurs types de personnalités. Il y a d'abord ceux qui sont craintifs. Ceux qui sont craintifs, les premiers. Dieu demande à tous ceux qui sont craintifs, tous ceux qui ont peur, rentrez chez vous. Et franchement, ils se sont pas fait attendre, ils sont partis. Ils étaient là, il y avait plein de personnes, il y avait une armée, une grande armée qui était là, prête à faire la guerre. Et parmi cette armée qui était là, prête à faire la guerre, Gédéon demande ceux qui sont craintifs s'en aillent, et il y a les deux tiers de l'armée qui s'en vont. Les deux tiers. Ça veut dire que les deux tiers qui étaient là, un soldat, c'est celui qui va à la guerre. C'est celui qui est censé prendre la victoire sur l'ennemi. Mais parmi ces personnes-là, deux tiers ont dit, non, moi, ça me fait peur. Quelles sont les raisons pour lesquelles ceux qui sont craintifs peuvent être comme ça? Ceux qui sont craintifs ne pensent et ne se préoccupent que pour eux-mêmes. Lorsqu'on a peur, et lorsque Jésus parle de celui qui a peur, celui qui a peur plus pour sa vie que pour son prochain, alors celui-là n'est pas digne de me suivre, parce que on se tourne vers soi, c'est toujours pareil. On se fait passer d'abord. Avoir des pensées et des préoccupations qui ne se tournent que vers nous-mêmes. Ceux qui sont craintifs ont peur, pourquoi? Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de mourir. Donc, ils ont peur de perdre la vie. Ils ont peur de perdre leur vie. Ils ont peur de perdre leur vie. Ils sont attachés à leur vie et ils ne veulent pas la lâcher. Donc, ceux qui sont craintifs ne pensent et ne se préoccupent que pour eux-mêmes. Ils n'ont pas non plus la motivation nécessaire pour rechercher, désirer et atteindre la victoire. Le but, l'objectif. Lorsqu'on part en guerre, il y a un but, il y a un objectif, il y a une mission dans laquelle nous devons aller. Si cette mission-là, nous ne sommes pas à 100% là-dedans, si nous ne pensons pas à cette mission, si nous ne réfléchissons pas à ça, alors la moindre des choses peut venir nous dévier de notre chemin. Et en l'occurrence, déjà dans cette situation-là, ces personnes-là, ceux qui sont craintifs sont déjà motivés, n'ont pas la motivation nécessaire pour aller jusqu'au bout du chemin. Et enfin, ils sont préoccupés par les soucis de ce monde. C'est ça qui les préoccupe le plus. Ils ne se pensent pas capables d'y arriver et ils n'en ont même pas la volonté en fait. Parce que d'autres choses accaparent leurs pensées, d'autres choses accaparent leurs soucis. Ils ont des soucis, mais ce n'est pas les soucis de Dieu. Ce n'est pas la priorité de Dieu, ce sont les soucis du monde. Ce sont les inquiétudes qui créent la peur et qui engendrent la fuite. Les soucis du monde, la crainte du monde, Christ en parle, il disait, ne craignez pas pour vos vies. Ne craignez pas de quoi vous serez nourris, de quoi vous serez vêtus demain. Ne vous inquiétez pas de tout ça, parce que Dieu pourvoit à tout ça. Dieu pourvoit à vos besoins. Mettez plutôt votre confiance sur Dieu. Mettez plutôt votre confiance en Dieu, de sorte que vous le voyez agir. Mais lorsque la peur, lorsque la crainte paralyse nos vies, alors c'est elle qui étouffe notre chemin dans le miracle de Dieu, dans le pourvoiement, dans le fait que Dieu pourvoit. Après, il y a ceux qui se mettent à genoux pour boire. Alors eux, il ne restait plus que 10 000 personnes. Donc on peut se dire, c'est bien. Et puis, voilà que Dieu sort quelque chose d'un petit peu bizarre. C'est ceux qui se mettent à genoux pour boire, alors eux, ils n'iront pas avec toi. Les autres qui ont lapé l'eau comme des chiens, ceux-là, ils pourront partir avec toi. Ceux-là, ils poursuivront. Moi, j'ai pas envie de laper l'eau comme des chiens. Je veux dire, comme un chien, je suis pas un chien, on pourrait dire. Mais quand on y pense, ça démontre une certaine attitude. L'armée était en chemin vers l'ennemi. Elle était dans une mission, c'était de vaincre l'ennemi. Dans cette mission, ils arrivent sur un point d'eau. Et Gédéon observe. Parmi toute son armée, il envoie certains, alors que l'ennemi est peut-être pas très loin, il envoie certains qui se jettent complètement dans l'eau, qui se mettent à genoux dans l'eau et qui assouvissent leur besoin de boire. Et il y en a d'autres qui boivent comme les chiens, comme ça. C'est-à-dire qu'ils se penchent, bien sûr, ils se penchent pour boire, heureusement, mais en même temps, ils gardent un œil et un regard sur ce qui se passe autour d'eux. Vous savez, les chiens, les animaux, quoi, dans la savane, lorsqu'ils vont dans des points d'eau, ils regardent toujours autour d'eux. Ils font attention. Il y a peut-être un ennemi qui est là. Peut-être un lion se cache quelque part. De sorte que s'il y a un problème, pour les animaux en tout cas, hop, ils peuvent détaler aussi le plus rapidement possible. Mais voilà que ces gens-là, qui sont là, certains s'abandonnent à leurs désirs et d'autres restent concentrés sur la vision. La finalité pour chacun d'entre eux, c'est la même. Ils auront but tous les deux. Mais l'attitude est différente. Ceux qui se mettent à genoux pour boire capitulent devant leurs envies, devant leurs désirs. Ils ont le désir d'accomplir l'œuvre, mais ils se laissent détourner et prendre par d'autres priorités. Il y a un objectif, il y a un chemin à suivre, il y a une mission, mais il y a tellement de choses autour. Il y a tellement de choses qui pourraient nous accaparer. Et ces gens-là avaient le désir de boire. Et on pourrait se dire, c'est normal. Ils avaient soif, ils avaient le désir de boire. Mais même dans leurs besoins, certains ont trouvé le moyen de rester concentrés. Et d'autres se sont détournés de la mission. Et là, on compte qu'il n'en reste plus que 300, c'est-à-dire qu'il y en a encore environ 2/3 qui ont été écartés. Il y en a encore environ 2/3 qui ont été écartés. Chacun de ces groupes a été tenté par quelque chose qu'il avait. Certains parce qu'ils se préoccupaient trop d'eux-mêmes, d'autres ils se préoccupaient pas plus d'eux-mêmes, mais ils avaient des envies, ils se sont laissés submerger par les envies, ils se sont laissés dépasser par les envies, alors qu'ils avaient les mêmes besoins que d'autres. Et finalement, il n'y en a plus que 300 qui sont restés. Comment ? Non, c'est sur 10 000. Ah oui, exact. Ah, c'est, je me suis trompé. Je suis resté sur mes 2/3 tout à l'heure. Ok. Merci. Donc ça fait effectivement 3%. Donc ça fait vraiment encore beaucoup moins. Qu'est-ce qui s'était passé si tous avaient été au combat ? Si tous avaient été au combat, qu'est-ce qui aurait pu se passer ? Après tout, on peut se dire, bon, plus nombreux, mieux c'est. Eh bien, on pourrait, je pense, imaginer que ceux qui sont préoccupés, ceux qui ont des préoccupations personnelles, eh bien, ils auraient démotivé ou semé le doute, le trouble parmi les autres. Parce qu'on est dans une armée. Les gens parlent, les gens se... Ça, c'est un peu un côté, une part active, d'accord ? Et puis, les autres, c'est ceux qui se laissent distraire. Et donc, le groupe aurait pu se laisser distraire par d'autres choses. Ils auraient pu se laisser distraire par d'autres choses, justement parce qu'il y en a certains qui se laissent accaparer. Donc on voit que 303% par rapport à tous ces autres-là, par rapport à tous ces autres-là, donc ça fait pas grand monde. Ça fait pas grand monde. Et si ces 100% avaient été là, ces 3%, ils auraient été étouffés par tous les autres, par tous les problèmes que les autres auraient eu, par toutes les tentations que les autres n'auraient pas pu surmonter, par toutes les craintes, par toutes les faiblesses que les autres n'auraient pas pu surmonter. Donc au final, ce sont vraiment ce qui était au final même les véritables. Donc au final, même ceux qui auraient les 300 n'auraient pas pu remporter la victoire parce que l'armée n'aurait pas été émondée, n'aurait pas été écartée de toutes les parasites et de tous les problèmes qui auraient pu le mener à la victoire. Alors quels sont ceux qui partent au combat? Ce sont ceux qui demeurent fermes à des objectifs. Ce sont ceux qui sont conscients qu'ils sont en guerre et qui sont imperméables à leurs besoins primaires, hermétiques à toute distraction. Ceux qui sont concentrés, focalisés et qui veulent aller jusqu'au bout. Et ça, c'est l'exemple biblique d'hommes qui vont jusqu'au bout. Et il y en a d'autres qu'on va prendre. Il y a d'autres exemples d'hommes, soit qui vont jusqu'au bout, soit qui se laissent distraire, qu'on va prendre. Mais l'objectif de ce passage, c'est vraiment de nous enseigner que seulement lorsqu'on veut aller jusqu'au bout, il faut être concentré, il faut être focalisé, faut s'écarter de toutes les peurs, de toutes les craintes, etc. Alors c'est peut-être pas facile. Mais Dieu nous laisse le choix. Dieu nous laisse le choix. Et lorsqu'on chemine avec Dieu, j'ai parlé tout à l'heure des pierres, lorsqu'on chemine avec Dieu, c'est progressivement que Dieu nous fait avancer sur le chemin. Et les défis qu'il nous donne, les pierres qu'il met devant nous, ce sont celles qui peuvent être retirées. Il y en a d'autres encore. On ne peut pas encore les retirer. Il y en a d'autres qui sont là et Dieu ne fait pas sortir toutes les pierres d'un coup. Ce sera un monticule de pierres, ce sera une catastrophe. Dieu ne fait pas sortir toutes les pierres d'un coup dans notre vie. Mais dans le cheminement, petit à petit, lui qui a la maîtrise de toutes les circonstances de nos vies, sait nous conduire au travers des difficultés. Et toute notre fidélité dépend de la confiance que nous mettons en Dieu. Dépend de cette confiance dans laquelle nous disons « c'est toi qui peux diriger, c'est toi qui peux faire ces choses-là, c'est toi qui peux me conduire, même si je suis dans l'adversité, même si je suis dans la difficulté, même s'il y a tout qui s'écroule, qui s'effondre autour de moi, je veux te rester fidèle. » Parce que bien des fois, on est content quand on vit des choses formidables avec Dieu, alléluia, gloire à Dieu, mais lorsqu'on est dans la tentation, lorsqu'on est dans la difficulté, le alléluia, on ne sait pas trop où il est. Hein? Le gloire à Dieu, on va attendre encore un peu avant de dire gloire à Dieu. Hein? Pourtant, Dieu a placé en nous la capacité d'arriver jusqu'au bout. Et lorsqu'on est tenté, il nous donne la capacité de sortir de cette tentation. Donc on va voir deux exemples d'hommes qui ont été tentés. Et le premier exemple, c'est Uri. Vous connaissez Uri? Est-ce qu'on connaît Uri? Uri et David. Uri, celui qui est parti à la guerre, et David, celui qui n'est pas parti à la guerre. D'accord? Donc c'est l'histoire de David n'étant pas parti à la guerre, qui voit du haut de son palais une jeune dame. Comment? Une jeune dame qui se baigne et il savait que c'était l'épouse d'Uri, le soldat qui est parti, mais il n'était pas là. Et il décide d'aller vers cette dame-là. Manque de bol, il y a des preuves. C'est qu'elle tombe enceinte. Et qu'est-ce que David cherche à faire? Qu'est-ce que David cherche à faire? Il cherche à cacher ces preuves-là. À cacher son péché. Comment? Il fait revenir Uri. C'était le roi, hein. Il fait revenir Uri. Et il lui dit, Uri, Mon bon et fidèle soldat, tu as beaucoup travaillé, tu as fait beaucoup de choses, c'est bien. Maintenant, écoute, retourne vers ta femme, fais ce qu'il convient, fais tout ce que tu dois faire avec ta femme, prends un peu de repos. Et il est tombé sur un os. Il est tombé sur un os, c'est que Uri était un soldat fidèle. Ça a été un gros problème pour David, parce que lorsque David lui propose ça, Uri lui dit, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé mon travail là-bas. Il y en a qui sont encore sur le front. Je veux y retourner. Je veux être là-bas. Mon épouse, on verra plus tard. Alors, désolé, hein, mais ma chère épouse, c'est censé jamais, voilà, les maris à leur épouse, peut-être vous pouvez vous regarder en disant, voilà, c'est Dieu d'abord. Amen. C'est Dieu d'abord, ok? Mais c'est ce qui s'est passé. C'est que Bathsheba avait la possibilité de voir son mari revenir. Ah, enfin, mon mari, tu es là. Oui, c'est ça. Et Uri n'a pas, n'a pas, Uri s'est montré fidèle. Ça a été un soldat fidèle parce qu'il veut accomplir le travail jusqu'au bout. Et il ne s'est pas laissé distraire. Malgré le fait, notons bien, malgré le fait que c'est le roi qui lui parle. D'accord? On n'est pas en train de. C'est pas quelqu'un qui vient dire, oh, écoute, si tu allais faire. C'est ton roi te parle et te dit, Uri, va te reposer maintenant. Mon roi m'a parlé. Mon roi m'a parlé, m'a dit, je vais me reposer. Je ne vais pas aller à l'encontre de la volonté du roi. Uri a été à l'encontre de la volonté du roi. C'est quand même fort, non? Il a été à l'encontre pour dire. Je vais jusqu'au bout, je suis un soldat, ma place, elle n'est pas ici, elle est là-bas. Elle est au front. Et son épouse, ça attendra plus tard. Donc Uri, il ne se laisse pas distraire, ni par ses désirs personnels, donc pour aller vers sa femme, ni par toutes les distractions qui voudraient le détourner du but. J'ai noté le roi donne une légitimité dans la passivité. D'accord? Donc là, c'est quelqu'un, quand on parle du roi, on parle de quelqu'un qui a autorité sur sa vie. Donc on est là en présence de quelqu'un qui a autorité sur sa vie, qui lui dit, voilà ce que tu vas faire. Et Uri choisit de désobéir. Même le roi, donc, ne parvient pas à l'extraire de son dévouement. Parce que la cause qu'il sert, elle est au-dessus du roi. Elle est au-dessus des autorités qui sont devant lui. Elle est au-dessus de tout ça, parce qu'il sert Dieu d'abord. Et David, lui qui est resté à la maison, qui normalement était un homme de combat, lui par contre, il a cédé à la tentation. Lui par contre, il s'est mis en vacances. Lui par contre, il s'est dit, oh, cette fois-ci, enfin je sais pas, je paraphrase un peu, mais cette fois-ci, je vais rester un peu là, c'est mon armée qui va y aller. Il voulait se reposer. Après beaucoup de périodes où peut-être il a lutté, combien d'entre nous ont dit je veux me reposer? Combien d'entre nous on pourrait se dire je veux monter, reposer? Mais la vie même qu'on mène, c'est un combat. La vie même que chacun d'entre nous on mène, qu'on développe, c'est un combat. Le jour où on baisse les bras, c'est un suicide. D'accord? Et l'objectif de la vie, c'est de toujours avancer. De toujours aller de l'avant. Quand bien même c'est difficile, quand bien même c'est pas évident, et de trouver, non pas son réconfort dans l'un ou dans l'autre, mais déjà et avant tout, trouver son réconfort dans Dieu. Trouver sa force en Dieu. Trouver la force d'aller de l'avant dans celui qui nous donne cette force-là. Dans celui qui connaît toutes choses de nos vies. Dans celui qui peut nous permettre que toutes les difficultés s'écartent de nos vies. Je l'ai déjà dit un jour, lorsque je ne savais pas si Dieu existait ou pas, j'ai prié, j'ai dit, écoute, toi, je ne sais pas si tu existes. J'étais étudiant, mais j'avais pas mal de difficultés, difficultés de part et d'autre. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai dit, Seigneur, toi, si tu existes, alors montre-moi. Et la sensation que j'ai eue, c'était très bizarre, c'était comme si des bras d'un coup m'entouraient. Et comme si des bras écartés, c'est très mental, mais c'est la sensation que j'ai eue, comme si des bras écartaient tout ce qu'il y avait devant moi, et qu'elle me laissait un chemin pour passer. Et cette image-là, que j'ai reçu et que j'ai eu le sentiment de vivre vraiment, c'était c'est un vécu. C'est comme ça que je mentalement je le voyais. Elle m'a suivi, elle me suit depuis bien des années maintenant, parce que c'est de cette manière-là que Dieu fonctionne. Lorsqu'on est à bout, lorsqu'on est dans la difficulté, lorsqu'on ne sait pas, même si Dieu existe, lorsqu'on ne sait pas où se trouve Dieu, il suffit de lui demander, il suffit de lui donner les clés de notre maison, et il vient, il prend place. Et ses bras d'amour nous entourent, et c'est lui qui s'occupe d'écarter les choses autour de nous. On n'a pas besoin de faire beaucoup de choses, on n'a pas besoin de s'inquiéter, on n'a pas besoin de tout un tas de choses, parce que dans tous les cas, c'est lui qui est en mesure de changer les circonstances de nos vies. Et c'est ce que je trouve formidable avec Dieu, c'est que nous sommes limités. Et des fois, on croit qu'on peut faire beaucoup de choses, mais il y a une chose dans laquelle on ne peut rien faire, ce sont les circonstances de nos vies. On ne peut pas faire quoi que ce soit dans les circonstances de nos vies. Le hasard, comme on peut appeler ça. Dieu travaille dans nos vies parce qu'il peut, il peut agir dans ces choses que nos vies ne maîtrisent pas. Et la deuxième personne, c'est un roi au chapitre 13. Un roi au chapitre 13, vous savez, c'est l'histoire de ce prophète dont on ne connaît pas le nom. Un prophète qui va voir le roi. Et donc, il y a beaucoup de paroles à lui donner, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais le roi, à la fin, lui dit, mais écoute, puisque c'est tout ça, viens, parce qu'il a vu vraiment que c'était un prophète. Au début, il a douté, il voulait le faire enfermer. Il s'est rendu compte que ce n'était pas possible parce que son bras, il est resté paralysé. L'autre, il dit, bah, prie pour moi. OK, il a prié, son bras, il n'était plus paralysé. C'était génial. Je le fais vite fait, d'accord ? Donc, du coup, le roi lui dit à ce prophète-là, il dit, mais... écoute, reste ici, viens, mange, bois, je veux pas que tu partes comme ça. Et le prophète lui dit, non, je ne peux pas rester parce que mon Dieu m'a dit, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, et tu retourneras directement par un autre chemin que celui par lequel tu es venu. Ça, c'est ce que le roi lui dit. Et on voit qu'un autre prophète, un ancien prophète, entend parler de ce prophète-là. Il dit, waouh, c'est son fils qui vient et qui lui dit, il y a un prophète comme ça. Il dit, super, je vais aller à sa rencontre. Donc il va à sa rencontre, il cherche, il prend le chemin par lequel il est passé et il le retrouve. Mais où ? Il était assis sous un chêne en train de se reposer. D'accord ? Sous un chêne en train de se reposer. Donc déjà, c'est un ancien prophète, il a réussi à le rattraper. Je pense que s'il avait continué jusqu'au bout, sans s'arrêter, il ne l'aurait pas rattrapé. D'accord ? Donc cet ancien prophète, il vient et lui dit, wow, super, ben écoute, viens chez moi, et tout ça. Et lui, il dit, non, écoute, mon Dieu m'a dit, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas manger. Jusque-là, tout va bien. Mais voilà que l'ancien prophète lui dit, mais moi aussi, je suis prophète. Hey. Et voilà qu'un ange m'est apparu et il m'a dit, ben, tu dois venir chez moi. Ah bon ? Ah ben d'accord, alors. Hein. Et donc, il l'a suivi. Il a suivi, il a été chez lui, du coup, trois petits points. Et au bout d'un moment, ce même prophète-là qui a menti. C'est injuste, ça paraît injuste. Mais on se focalise, on se concentre sur ce prophète-là, sur le premier prophète, le jeune prophète. On dirait, il y a un vieux prophète et un jeune prophète. On se concentre sur ce jeune prophète. Ce jeune prophète-là, indépendamment du fait que l'ancien, lui, il a menti, s'est laissé distraire. Et il a été dans la maison de l'ancien, jusqu'au moment où l'ancien lui dit, bah, écoute, voilà, parole de l'Éternel, tu vas rentrer, tu vas mourir. Quoi ? Mais c'est toi qui m'as dit. Non, mais voilà, quoi. Et malgré tout, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il s'est écarté du chemin. Il s'agit d'un prophète, donc quelqu'un qui parle de la parole de Dieu et qui a entendu la voix de Dieu jusqu'au bout. Et voilà que ce jeune prophète se laisse détourner. Ça paraît injuste. À ce moment, ça paraît injuste. Mais quand on y pense, ce jeune prophète qui a entendu la voix de Dieu, est-ce que Dieu rentre en contradiction avec lui-même ? Dieu qui lui a dit « tu vas et tu rentres chez toi » se laisse détourner par une parole de Dieu. Et il aurait très bien pu dire « non, c'est pas ça qui a été dit. C'est pas ça que Dieu a dit. Ce que tu me dis, écoute, si tu veux, Je viendrai plus tard, en vacances, mais quand je serai en vacances. Pour l'instant, je ne suis pas en vacances, je n'ai pas terminé ce que Dieu m'a dit de faire. Mais il avait été jusqu'au roi, il avait accompli une mission, formidable d'ailleurs, parce que le roi a vu que c'était un prophète, et sur le chemin du retour, il s'est relâché. Il n'a pas été jusqu'au bout. Donc ce prophète-là, donc c'est un autre prophète qui le distrait et qui le détourne des instructions données par Dieu. Dans l'engrenage de la tentation, c'est celui par lequel on vient à dire à un moment donné, voilà, j'ai bien travaillé, je me suis bien reposé, donc maintenant j'ai quand même le droit à un peu de repos. J'ai quand même le droit. C'est vrai. Honnêtement, c'est vrai. On a des fois le droit à du repos. Mais il faut savoir où on en est dans ce que Dieu nous demande. Il faut savoir où on en est dans la mission que Dieu nous confie. Et donc, on en vient à dire des fois, bon ben voilà, j'ai le droit. Et c'est un peu l'engrenage dans lequel on trouve, finalement, dans la désobéissance, une certaine légitimité. Une petite légèreté comme ça, oh, ça fera pas de mal. C'est pas un problème. Se laisser aller. Et nous en tant que croyants, on peut vite se laisser distraire. Il y a tellement de choses autour de nous qui peuvent nous distraire de ce que l'on peut faire, de ce chemin qu'on peut mener avec Christ. Il y a tellement de choses, tellement de choses. Et notre marche avec Dieu va dépendre de quelle manière est-ce que nous tenons fermement dans ce que lui nous demande, dans sa volonté. Nous tenons fermement à sa parole de Dieu. Notre volonté est d'aller jusqu'au bout. Et ce que je trouve assez étonnant, alors juste un petit passage, c'est qu'encore une fois, dans ce passage-là, c'est une personne qui a une forme d'autorité sur ce jeune prophète qui le détourne. Alors bien sûr, je ne veux pas dire par là que voilà, il faut se méfier de toutes les autorités, d'accord ? N'allons pas complètement. Mais je crois que ce serait un peu facile si, quand on est sur le chemin, ce soit que des personnes désagréables, que des personnes qu'on n'a pas envie de voir, qui viennent et qui nous tentent pour faire autre chose. En général, là où c'est le plus dur, c'est lorsque ça vient des personnes qui nous sont peut-être même le plus proches. Encore une fois, il ne s'agit pas de jeter de la méfiance, de la défiance, c'est de nous qu'il s'agit. C'est de notre détermination, de notre volonté à aller jusqu'au bout du chemin et à ne pas se laisser distraire. Nous sommes pécheurs autant que d'autres personnes autour de nous sont pécheuses. Mais la conviction que nous recevons de Dieu n'est pas forcément la conviction que d'autres reçoivent. Et lorsqu'on sait que Dieu nous demande de faire quelque chose, lorsque c'est que Dieu nous appelle il faut savoir être ferme dans ce qu'on veut faire. Que ce soit des amis à qui on tient fortement, des personnes qui nous sont proches ou même des personnes à qui on reconnaît une autorité dans nos vies. La plus grande des autorités dans nos vies, c'est d'abord et avant tout Dieu. C'est d'abord et avant tout ce que Dieu veut dire, ce que Dieu veut faire. Et lorsqu'il parle des fois, lorsqu'il peut parler d'une certaine manière à nos vies, ça engage notre responsabilité et notre personne d'aller jusqu'au bout. Et c'est ce que Dieu fait. C'est qu'il veut que notre volonté, notre responsabilité, nos décisions soient poussées par la fermeté que nous mettons à aller jusqu'au bout. À aller jusqu'au bout du chemin, pas à nous laisser distraire, pas à nous laisser dépasser par les événements qui sont autour de nous. Très rapidement, on peut se laisser dépasser par tout ce qu'on entend, même à la radio, même à la télé, par les guerres. Si vous entendez des bruits de guerre, tout un tas de choses, ne craignez pas. Ne craignez pas. Si vous avez peur que l'humanité soit détruite demain, ne craignez pas. Dieu sait ce qu'il fait. Bien sûr, nous avons une responsabilité dans ce que nous faisons. D'accord ? Mais ne craignez pas, parce que la finalité de toute chose, même la mort, est entre les mains de Dieu. Même la mort, Dieu peut dépasser toutes ces choses-là. Ceux qui partent au combat, ce sont des soldats qui servent la cause suprême et pas seulement celle de leur entourage. Et ils ne sont pas seulement enrôlés dans une armée, ils sont habités par le désir de vaincre. Le désir d'aller jusqu'au bout, d'atteindre la cible. Ils sont déterminés pour une mission dont ils se font serviteurs. Et quand on parle de mission, celle de Jésus, elle est bien plus au-delà que celle que nous pourrions avoir. Lui qui était parfait, il a accepté de donner sa vie, de mourir à la croix. La croix, ce n'est pas juste un symbole, c'est le fait que c'était des brigands qui devaient aller là-bas. C'était des pécheurs qui devaient aller à la croix. Ce n'est pas juste un signe, hein. C'est un instrument de torture. C'est un instrument de torture dans le, qui disait « Voilà celui-ci ce qu'il mérite. » De mourir dans la souffrance, de mourir dans l'isolement, de mourir seul dans une condition que les autres autour ne peuvent pas vivre. Et les brigands qui étaient avec lui, les deux brigands, il y en a un qui était plutôt sage, qui disait « Mais lui, il n'a rien fait. C'est nous. Nous, on a mérité ce qui nous arrive. Mais lui, il n'a rien fait. Pourquoi est-ce qu'il est là ?» Il exprime combien chacun d'entre nous, nous devrions être sur cette croix. Parce que notre vie, c'est celle de pécheur. Mais Christ a pris notre place à la croix. Christ a pris notre place pour la souffrance. Et c'est de cette manière qu'il dit « Ne vous inquiétez pas ». Christ a pris notre place pour toutes les peurs, pour toutes les inquiétudes, pour toutes les craintes que nous avons dans la vie. De sorte que nos pensées soient centrées, soient focalisées sur la mission de Dieu. Sur la recherche et le désir de Dieu. Que toutes les autres choses puissent pâlir, puissent s'effacer. De sorte que seule la gloire de Dieu compte. Seule la vie de Dieu compte. Jésus-Christ a été tenté, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, il a été tenté par le diable. Il a été tenté par le diable, mais et donc justement après un moment donc où on aurait pu se dire, il était fort, normalement là ça y est, c'est formidable. Non, c'est une fois qu'il a été tenté, une fois qu'il a vaincu, une fois qu'il a passé ce cap, ce n'est qu'alors, le passage nous dit, que les anges sont venus le servir. Il a jeûné, il a prié pendant 40 jours, ok, ce n'était pas pendant une demi-journée, ou un jour. Pendant 40 jours, il a jeûné, il a prié. Et après, il a été conduit dans le désert par le tentateur, par le diable. Et le diable, ça veut dire aussi tentateur, d'ailleurs. L'adversaire, le tentateur. Et qu'est-ce qui s'est passé en premier ? Qu'est-ce qui s'est passé en premier ? Le diable le voit et lui dit « Mais écoute, forcément, tu as faim !» Ben oui, Jésus avait faim. C'était un état, d'accord ? De même titre que ces soldats, ils avaient soif. Les soldats avaient soif. « Tu as faim ? Ben écoute, prends cette pierre et transforme-la en pain. » Mais il n'a pas laissé ses désirs lui dicter quoi faire. Il s'est appuyé sur la parole et ça pose la question de quelle est la place de la parole de Dieu dans nos vies. Donc Christ s'est appuyé sur la parole de Dieu et le diable a perdu un round. Il a perdu une bataille, mais peut-être pas la guerre. Peut-être pas la guerre. Ensuite, le diable donne légitimité à la désobéissance en utilisant la parole de Dieu. C'est un peu comme, vous savez, le serpent devant Adam. Dieu a-t-il vraiment dit ? Dieu a-t-il vraiment dit ? Et il faut s'accrocher sur la parole de Dieu. Et donc il lui a dit, mais écoute, il a dit qu'il te servira avec les anges, tout ça, tu tomberas pas, jette-toi du haut et tes anges te serviront. Et Jésus lui dit, non, 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 non. La parole de Dieu qui est citée, une figure d'autorité. Non, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu en vain. Oui, c'est ça. Et donc Christ ne s'est pas laissé distraire du sens véritable de la parole. Et ça, ça nous laisse réfléchir, c'est que nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, on peut être de ceux qui ne la connaissent pas. On peut être de ceux donc qui, pour un oui, pour un non, on va être emporté à tout vent de doctrine. Et on peut être aussi de ceux qui la connaissent, mais qui la connaissent comme la loi. Disant, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà ce, elle dit, ah, mais il est écrit dans la loi, tu pourras te jeter. Ah bon? C'est écrit dans la loi, mais oui, il faut aller. Ce passage nous incite à aller plus loin. La Bible dit que l'objectif, c'est que la loi soit placée dans nos cœurs. C'est que nous comprenions le sens de ce que nous lisons. Nous comprenions le sens de la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est encore une autre étape. C'est pas juste le fait que je lis la Bible, c'est je médite la parole de Dieu. Je médite la parole de Dieu et je réfléchis et je demande à Dieu de m'éclairer sur le sens qui est porté par cette parole-là. Sur le sens qui est donné par cette parole-là. De sorte que même si quelqu'un vient en me citant un passage, vous savez, même des musulmans viennent des fois en nous citant des passages. Même des musulmans, ils viennent en citant des passages. Une fois, il y a un musulman qui me dit « Mais écoute, Mohamed, il est annoncé dans la Bible. » J'ai fait « Ah bon ? Mais il est annoncé où ça ?»« Ben si, il est question, mais vous avez modifié, c'est une histoire de paraclète, paraclétos, un truc comme ça, dans un passage. » Et il est question du Saint-Esprit. Et que j'ai dit « Ok, on va prendre le passage, mais quand on voit le contexte, je dis « Non, attends, c'est pas du tout le contexte, ça parle pas du tout d'un homme, ça parle pas du tout de ça. » Alors, allez, mais peut-être il y en a qui, peut-être ayant déjà lu la parole de Dieu, se sont dit « Ah bon ? Ah oui, je vois des trucs dans le grec, ouais, c'est écrit comme ça, ah bon, c'est ça ?» Et se laisser distraire. Parce que ça n'est pas juste uniquement dans ce que, voilà, la Bible dit ça, et nous, on se laisse mener par le bout du nez. Il faut comprendre et connaître ce que la parole de Dieu nous dit. Aller un petit peu plus loin, creuser, aller un petit peu plus au fond. Quel sens, quelle importance donnons-nous à la recherche de vérité dans la parole de Dieu? Et ensuite, troisième point, le diable lui propose quoi? Il lui propose tous les royaumes, la gloire. D'accord? Il lui propose la gloire. Tous les royaumes, tout ça, vas-y, si tu te prosternes devant moi. Attention, hein, il y a un prix. C'est pas n'importe quoi. Je reste toujours au-dessus de toi, hein, le diable pourrait dire. C'est pas, t'es pas au-dessus de moi. Vas-y, si tu te prosternes devant moi. Et donc le diable lui propose la gloire. Et c'est finalement ce qui a fait sa propre chute, d'accord? Puisque l'histoire du diable, c'était un archange, quelqu'un qui donc faisait de la musique et c'est lui-même en voulant se mettre plus haut. Au-dessus de Dieu, ça a précipité sa gloire. Sa gloire, de toute manière. Donc Christ affirme son autorité de combattant et il lui ordonne à ce moment-là de partir. Là, il lui dit, ça suffit là. Parce que la gloire n'appartient qu'à Dieu seul. La louange n'appartient qu'à Dieu seul. La victoire est à Dieu d'abord. Il lui ordonne de partir. Et c'est toujours de la même manière en s'appuyant sur la parole de Dieu. Donc, quel combat menons-nous? Quels soldats sommes-nous? Et je pourrais rajouter, qui servons-nous? L'élément de salut dans cette histoire, c'est la manière dont nos pensées sont concentrées, focalisées sur la volonté de Dieu. Donc, non sur la base de ce que qu'on considère, mais sur ce que la parole de Dieu considère, sur ce que la parole de Dieu nous dit. Une figure d'autorité, elle peut toujours chercher à nous détourner, mais la véritable autorité dans nos vies, ça doit être la parole de Dieu. Toujours, toujours et toujours la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, pas ce que les uns disent, parce que les uns disent de Dieu, mais ce que la parole de Dieu dit. Et moi, j'aime beaucoup, vous savez, j'aime beaucoup ce passage dans le livre des Actes où, je l'ai dit déjà, mais bon, je le redis, mais où il y a Paul qui a été vers des gens et ils n'étaient pas bien disposés à entendre la parole de Dieu. Et il a été en Bérée, donc, et il est dit des chrétiens de Bérée qu'ils étaient ils étaient dans de meilleures dispositions. Et les meilleures dispositions, c'est quoi? C'est que lorsque Paul parlait, ils vérifiaient si tout ce que Paul leur disait était vrai dans la parole de Dieu. Ça, c'était leur meilleure disposition. Ça, c'était de bonnes dispositions. Mais les autres, ceux qui veulent discuter, discourir, ceux qui veulent tourner autour du pot, dire mais si, mais là, même les Romains, toutes ces choses-là, rentrer dans un tas de discussions qui ne servent à rien, c'était pas ça qui faisait preuve de beaucoup de discussions. C'est le fait de disposition. C'est le fait que ces chrétiens-là étaient attachés à la parole de Dieu, la méditer, la rechercher, la désirer, pour comprendre et pour la comprendre et se laisser façonner par elle. Se laisser façonner par ce que Dieu dit. Seule la parole de Dieu et notre recherche de Dieu, au travers d'elle, bien sûr, sont en mesure de vaincre la tentation, là où les tentations dans nos vies. Le fait qu'on reste attaché, nos émotions nous trompent. Dans bien des situations, nos émotions nous trompent. Hein, c'est Guy qui disait, les sentiments, ça ment. C'est une fois, je me souviens. Sentiments, ça ment. Parce que bien des fois, on se laisse... On peut avoir un instinct des choses, mais toujours revenir à ce que la parole de Dieu dit. C'est pas pour rien que Jésus déclarait « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et vous voyez, là, je sors ce passage-là, et je le sors pas en me disant « Ouais, bon, on va essayer de se ménager un petit peu parce que c'est un passage qui est un petit peu dur à entendre, faire attention qu'on ne soit pas trop choqué ou autre chose. » Mais c'est la réalité de ce que Dieu a dit. C'est la réalité de ce que Christ a annoncé. Ceux qui me disent, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Nous avons une mission, nous restons dans cette mission et nous allons jusqu'au bout. Il montrait le chemin par lequel vaincre le monde, marcher main dans la main avec Dieu, en suivant Dieu dans ses pas. En le suivant dans ses pas. Tout tient au désir que nous avons d'accomplir la volonté de Dieu. Cette volonté pleine, entière, selon sa parole et en dehors de notre propre volonté. Même si la parole de Dieu va à l'encontre de notre volonté, est-ce que nous sommes prêts à suivre Christ? Est-ce que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout avec lui? Est-ce que nous sommes prêts à marcher avec lui? Vous savez, c'est dans Deux Rois chapitre 13, il y a cette histoire avec Élisée. Cette histoire avec Élisée et le roi Joas. Deux Rois chapitre 13, et le roi, Élisée est sur le point de mourir, et le roi veut voir Élisée parce qu'il a des combats à mener contre les Syriens. Et lorsque Joas se trouve là avec Élisée, Élisée lui dit, d'accord, écoute, vas-y, ouvre la fenêtre, tu tires une flèche. Et le roi, il y va, il tire une flèche. C'est bien, cette flèche, c'est la flèche qui te permettra de vaincre les Syriens. Et ensuite, il lui dit, tire par terre, tire des flèches par terre. Le roi, il tire 1, 2, 3 flèches et il regarde Élisée. Et il attend. Il dit, mais c'est tout? Tire 3 flèches? Mais tu aurais dû en tirer 5 ou 6. Et alors là, tu les aurais vaincus jusqu'au bout. Mais là, du coup, tu ne pourras pas les vaincre jusqu'au bout. Parce que tu n'as pas été au bout. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Le roi, il est là, il tire 1, 2, 3. Et nous, des fois, on peut être là en disant, mais qu'est-ce que je dois faire? Et ok, je suis là, ok, je fais juste mon devoir. Je fais juste ma béa de la journée. D'accord? Je fais juste ma bonne action. Ce qui convient. Voilà, comme ça, je m'assure d'être bien, de pouvoir aller au paradis sans problème, je m'assure d'être agréable. Mais c'est pas que ça que Dieu nous demande. Bien sûr, toutes ces choses-là sont bien. Tout ce que l'on fait de bien est agréable à Dieu. Mais ce que Dieu demande, c'est que notre volonté, notre détermination soit en marche pour aller jusqu'au bout. Et que l'on ne soit pas en train de se réfléchir, de dire 1, 2, 3, alors je dois faire quoi après? Non, je vais jusqu'au bout, j'y vais à fond, je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, on y va jusqu'à la 7e, je sais pas, 8. Bref, on va se fatiguer un peu. Avec la tentation vient un autre terme, le terme résister. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, nous avons là ce que la parole de Dieu nous dit, c'est soumettez-vous donc à Dieu. On se soumet à Dieu. Et Dieu vous délivrera de tous vos problèmes. Et Dieu fera partir le diable de devant vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. C'est une attitude dans laquelle la parole de Dieu nous encourage à nous trouver. Qu'est-ce que ça signifie résister aujourd'hui ? Dans bien des situations, on est pris dans tout un tas de choses. D'ailleurs, les slogans publicitaires, c'est « laissez-vous tenter ». Ne résistez pas, d'accord ? Ne résistez pas à vos envies, à vos besoins, ne résistez pas à tout ça. Laissez-vous conduire par toute la liberté de ce que personne ne vous dit quoi que ce soit, de ce qu'il n'y a pas à penser, la liberté dans tous les domaines de votre vie, la liberté dans tout ça. Qui a besoin de venir vous dire quoi que ce soit sur comment penser, comment faire ou comment dire les choses ? Vous pouvez tout faire pour vous-même, vous pouvez aller jusqu'au bout, vous pouvez vous libérer de toute chose. Et certains tombent dans le piège. Parce que lorsque Dieu nous a libérés, il nous a libérés de la capacité, il nous a libérés de cette manière dont a le monde de vouloir diriger nos vies. De pouvoir penser, il nous a donné la liberté de pouvoir penser de manière unique et d'être responsable de nos vies. Pas de dire « Ah, mais c'est la faute de quelqu'un d'autre !» mais d'être responsable jusqu'au bout. Lorsque, sans le péché, nous ne verrions pas que nous sommes pécheurs. Mais avec le péché, on voit que notre péché se tient. On voit quel est notre péché. Du coup, la tentation, elle vient aussi. Mais si la tentation est là, c'est parce qu'on sait de quelle manière on doit avancer pour ne pas aller sur le chemin qui mène à la perdition. On sait ce qu'on doit faire pour aller sur le chemin de la vérité, pour aller sur le chemin de Dieu, pour marcher dans la volonté de Dieu. Résister, ça demande de la patience, de la persévérance et l'espérance. Ce ne sont pas des valeurs que recherche forcément le monde. Ce ne sont pas des valeurs qu'on cherche aujourd'hui. La patience, la persévérance, l'espérance. Non, aujourd'hui, il faut vivre aujourd'hui, quoi. Demain, peu importe, c'est pas grave. Voilà. Et c'est sûr qu'en Christ, on doit se soucier d'aujourd'hui et faire confiance à Dieu pour nos lendemains. Mais si nous faisons confiance à la place à l'argent, à notre voisin, à tout un tas de choses, c'est d'autant de confiance que nous ne plaçons pas en Dieu. Et d'autant d'inquiétude et de peur parce que nous ne savons pas, nous savons que nous sommes faillibles, nous savons que les autres autour de nous sont faillibles et nous savons que chacun d'entre nous n'avons pas les circonstances et la vie entre nos mains. Mais Dieu, lui, c'est le cas. Et je vais terminer par un passage dans le livre 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 12 à 13. « Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Amen. Mais le passage continue, ceux qui ont les Bibles. Afin que vous puissiez la supporter. Des fois, ce passage-là, une fois j'en ai parlé avec des jeunes, ils m'ont sorti que, ouais, on a vu ce passage-là jusque-là. Mais il y a la suite. C'est que la Bible ne cache à aucun moment, Dieu ne nous cache à aucun moment, qu'on doit supporter la tentation, qu'on doit résister au mal, qu'on doit aller jusqu'au bout. Et vous voyez, je ne suis pas en train de vous donner des formules miracles. Peut-être quand j'ai abordé le sujet la tentation, je vais dire, ah! Je vais prendre quelles sont les solutions à tout ça. Quelles solutions je vais pouvoir employer et pouvoir mettre. Mais non, il n'y a pas de solution, il n'y a pas une solution. Il y a le fait, il y a la détermination et la volonté que nous voulons, dans laquelle nous voulons aller jusqu'au bout par rapport à ce que Dieu nous a donné de faire et de rester dans la confiance en Dieu à tout instant, à tout moment, quel que soit ce qui se passe. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui arrive, quelle que soit la plus grande catastrophe qui arrive, qui puisse nous arriver, ne pas remettre en doute le fait que Dieu est dans nos vies. Le fait que Dieu est dans nos vies. Avec la tentation, il préparera, il prépare aussi donc le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter, la soutenir, aller jusqu'au bout, traverser les épreuves, traverser les temps. Et je pense qu'en ce début d'année où on a bien commencé, c'est aussi bon de se dire, ok, j'ai bien commencé, mais je veux bien poursuivre et je veux bien terminer. Je veux aller jusqu'au bout. Et il ne s'agit pas de dire dans notre course où est-ce que j'en suis. Il s'agit de regarder au prix, de regarder devant et d'aller de l'avant. Et c'est ça la vision que Dieu nous donne sur la manière dont nous pouvons échapper à la tentation. C'est que la tentation reste derrière nous. Elle reste derrière nous parce que nous avançons. Elle ne vient dans notre vie que lorsque nous nous arrêtons. Que lorsque nous arrêtons, nous prenons un temps pour dire, des fois, je vais réfléchir à ça ou pas. Enfin, après, je veux dire, on peut prendre un temps pour réfléchir à des choses. C'est pas la... Ne faites pas de, d'accord, ne faites pas de généralité. Comprenez bien le sens de ce que je veux dire. Mais l'objectif de la foi en Christ, c'est de prendre nos responsabilités. De ne pas détourner notre responsabilité ni sur Dieu, ni sur personne d'autre. De prendre notre responsabilité. Si nous sommes tombés, nous demandons pardon à Dieu. Nous demandons pardon. Nous venons dans la repentance auprès de Dieu. Mais nous demandons à Dieu d'avancer. Et nous voulons avancer. Et nous restons déterminés pour aller jusqu'au bout. Amen. Prions. Seigneur, nous savons, Seigneur, que la vie est remplie de défis, de situations difficiles, des fois qu'on traverse, et dans lesquelles on se dit, même des fois on se dit, mais pourquoi est-ce que je vis tout ça? Pourquoi est-ce que je vis autant de difficultés? Et on cherche une raison, on cherche une autre. Seigneur, je voudrais surtout, Seigneur, qu'on puisse se concentrer sur la raison qu'on a d'avancer et d'aller jusqu'au bout. La raison qu'on a, Seigneur, de te louer. La raison qu'on a, Seigneur, de t'adorer. De considérer, Seigneur, cette vie que tu as donnée. Et de se laisser, Seigneur, conduire par toi, Seigneur, dans cette vie que tu nous as donnée, Seigneur. Pour, Seigneur, non pas, Seigneur, prêter aux circonstances et aux situations des promesses d'avenir magnifique, mais Seigneur, se laisser conduire par toi. De la même manière, lorsque, Seigneur, les disciples sont venus vers toi et ont dit, mais Seigneur, les démons nous sont soumis, c'est formidable, c'est extraordinaire. Toi, Seigneur, tu leur as dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais de ce que votre nom est inscrit dans le royaume des cieux. Encore une fois, Seigneur, tu as encouragé à regarder au bout, à regarder à la destinée, en toi, en Christ, à la gloire, Seigneur, qui est la tienne, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous donner la capacité, Seigneur, de te louer, de t'adorer en toutes circonstances. Merci, Seigneur, de nous encourager. Merci, Seigneur, de nous fortifier, Seigneur, lorsque la difficulté vient, Seigneur. Mais, Seigneur, conserve cette gloire qui est la tienne. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir nous réjouir, Seigneur, toujours devant, Seigneur, nos imperfections, devant nos incapacités, mais devant ce qui t'est possible à toi, devant ta grandeur, devant ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est au travers, Seigneur, de toutes les imperfections, de toutes les limitations de nos vies que nous pouvons réaliser combien tu es grand, combien, Seigneur, tu accomplis une volonté plus grande, Seigneur, encore dans nos vies, combien tu nous aides à poursuivre, Seigneur, notre chemin, Seigneur. Et nous ne voulons pas, Seigneur, nous compter, Seigneur, sur notre force, mais compter sur ta force à toi, mais compter, Seigneur, sur le miracle de la vie de l'Esprit, Seigneur. Le miracle, Seigneur, de ta parole de Dieu, de ta parole, Seigneur, qui agit dans nos vies, qui ne revient pas à toi sans avoir produit son effet, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ça, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.